Bonjour à tous, Didier sur EDFM pour un nouveau rendez-vous compte où il va être question de la langue française avec un invité qui, si je puis dire, n'a pas la langue dans sa poche. Bonjour Monsieur Slamovic.
Bonjour Didier.
Monsieur Slamovic, vous êtes quelqu'un de particulièrement occupé. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de justement vos occupations professionnelles et autres ?
Je suis linguiste avant toute chose, mais aussi traducteur. J'enseigne la traduction, mais je suis aussi traducteur professionnel, littéraire et technique. Je suis aussi critique de jazz et je programme également du jazz, notamment au Musée du Vin à Paris. Faut venir nous voir parce que c'est une très belle programmation. Voilà. Et donc, mon travail de chercheur m'amène à coordonner des ouvrages scientifiques, à diriger une collection aux éditions Interval. Sur le point qui s'appelle Le Point sur les idées, qui essaie justement de répondre à beaucoup d'interrogations sur le contemporain.
Voilà, et sur la langue française en particulier, on en parlait justement. Vous êtes, si je puis dire, un indigné qui crie et qui écrit « Détrompez-vous » à propos des étranges indignations d'un auteur et d'un ouvrage qui a fait beaucoup parler il y a quelques années. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, j'ai souhaité vous inviter parce que j'ai lu votre essai qui s'intitule « Le sexe et la langue », paru en 2018, aux éditions Interval, donc. Un essai qui dénonce l'écriture inclusive et autres dérives militantes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est, ou plutôt ce qu'a été, l'écriture inclusive ?
Effectivement, c'est une nuance importante parce que, au fond, ce qu'on appelle l'écriture inclusive, c'est tout et n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. De fait, beaucoup de gens élaborent leur propre système. Il y a des gens qui ont inventé une langue neutre, qui mettent des X partout, etc. C'est-à-dire que, justement, c'est bien là le problème, c'est qu'à partir du moment où on a une vision idéologique de la langue, et qu'on rend la langue coupable des désordres du monde, eh bien, on peut faire ce qu'on veut, imaginer le système qu'on veut, et verser dans cette espèce de mysticisme un peu illuminé, un peu magique, où on va forger sa propre langue pour remédier au malheur du monde. Ce qui est quand même un saut politico-idéologique énorme de penser qu'en changeant l'accord des adjectifs, le monde ira mieux. C'est une vue de l'esprit qui... que j'ai voulu justement décrire dans ces fonctionnements techniques et par là aussi montrer comment fonctionne réellement la langue. Donc le sexe et la langue, c'est à la fois une critique de cette idéologie de la langue, mais aussi une rectification sur, par exemple, pour comprendre comment fonctionne la personne dans la langue. Qu'est-ce que c'est la personne dans la langue ? C'est pas forcément ce qu'en disent justement les idéologues.
Voilà, justement, tout est venu, si je puis dire, par la volonté de certains de refaire là, une sorte de justice aux femmes dans la langue française, avec ce fameux point médian, ce « e » partout, ce changement de pronom. Parce qu'en plus de l'accord avec le féminin, il y a aussi la question du genre et la fusion du pronom « il » et du pronom « elle » qui donne quelque chose d'assez amusant, mais tout à fait impossible à pratiquer.
Oui, c'est une idée relativement poétique, au fond, de vouloir voir dans la morphologie de la langue quelque chose qui aurait une portée comme ça, qui est étendue jusqu'à inclure effectivement l'ordre social. Hein, comme si les fonctionnements grammaticaux comportaient en eux-mêmes la structure de la société. C'est une proposition affolante, en fait, encore une fois, très, très mystique. Et voir des injustices dans un système qui, justement, se signale par son arbitraire, c'est voir de l'injustice là où il n'y en a pas. Et, sauf qu'une fois qu'on est dans cette optique-là, eh bien, on va trouver à justifier tout et n'importe quoi. Et la plus grande confusion, c'est de croire que les mots sont des gens, que les signes linguistiques... Confondre, en fait, le genre grammatical avec le sexe des personnes, méthodologiquement, ça ne tient pas la route. Mais avec les artifices poétiques et l'indignation qui va avec, c'est un discours qui a été extrêmement porteur, y compris sur le plan législatif.
Alors, vous parlez d'imaginaire linguistique dévoyé, justement.
Oui, c'est ça, c'est imaginer des choses. On voit un mot féminin, on voit un mot masculin, et on imagine que ça renvoie aux personnes, alors que masculin et féminin, appliqué au signe, ça décrit simplement des fonctionnements d'un corps. Et les mots ne sont pas des personnes. Un mot féminin n'a rien. Un mot dit féminin n'a aucune féminité. Et pareil pour le masculin. Donc, vouloir plaquer ces interprétations-là, ça aboutit à énormément d'absurdités.
Voilà, donc vous dites aussi que finalement, c'est déplacer sur le terrain de la grammaire des questions sociales, politiques et culturelles, comme effectivement les inégalités entre hommes et femmes. Et donc essayer de, par la langue, de les supprimer.
Et certains font même un saut interprétatif colossal qui consiste à croire que c'est à cause de la grammaire qu'on aurait une vision de la société particulière. D'où cette idée de remédier, c'est vraiment la remédiation du monde par la réforme grammaticale. Ça ne marche pas comme ça. La langue et la société ne sont pas dans un rapport comme ça de symétrie. Bon, la société française a un petit peu changé, la langue aussi, mais sans qu'il y ait de rapport direct. Et en plus, il y a la vraie absurdité méthodologique, au fond, c'est de ne retirer de la langue que le genre. Mais pourquoi tous les autres, les milliers de phénomènes qui constituent une langue, eux, ne seraient pas signifiants socialement? Il n'y en a qu'un seul qu'on aurait pu extraire comme ça. C'est un picorage qui n'a pas de sens sur le plan de la méthode.
D'ailleurs, c'est assez intéressant dans votre livre, puisque une des questions qui agitait, disons, la sphère linguistique un petit peu engagée, c'était la féminisation des noms de métiers. Et vous notez dans votre livre que finalement, on revient toujours un peu sur les mêmes métiers. Et il y en a d'autres qui sont pas du tout, qui posent pas de problème à ces partisans de féminisation à outrance, on va dire.
Oui, c'est en gros, c'est même pas des métiers, c'est 5-6 mots qui reviennent tout le temps.
Tout le temps.
Comme si le mot, en gros, c'est le mot autrice, c'est des mots comme ça. Mais bon, ça n'est pas un fait social d'avoir 5 mots qui se baladent comme ça. Et surtout, c'est croire, encore une fois, que la désignation est une vision du monde. Non. Et les suffixes ne sont pas une vision du monde. Hein. On ne peut pas réduire les choses à si peu d'exemples. La langue, c'est un système absolument colossal. C'est une combinatoire de milliers de faits qui ne peuvent pas être caricaturés comme ça. Même si il y a une vraie efficacité sloganique. Hein. Ce sont des beaux slogans de dire non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. C'est très difficile à combattre parce que ça repose sur tellement de préjugés, tellement de raccourcis que à la fin, j'avais rencontré le même problème d'ailleurs sur le Indignez-vous de Stéphane Hessel, c'est que pour démentir une ligne, il faut faire 10 pages d'explication et évidemment, c'est un effort intellectuel que tout le monde n'a pas envie de faire.
Voilà. C'est plus difficile de démentir quelque chose qui est faux que d'affirmer une contre-vérité.
Exactement. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de ce qu'on appelle l'analyse du discours. C'est d'essayer de déployer un arsenal explicatif qui soit
scientifique,
qui soit argumenté, qui soit fondé sur des comparaisons, sur des faits. Et évidemment, dans l'idéologie, les faits, la factualité, c'est ce qui part en premier. C'est qu'on veut à tout prix faire en sorte que les faits correspondent aux idées. Donc, on part de l'idée d'abord. Voilà.
Voilà. Alors, dans le cadre de la féminisation à outrance de tous les mots, les adjectifs, vous citez par exemple le terme « témoin ». Et vous dites, même si on veut le mettre au féminin, ça donne quoi? Quelque chose d'assez absurde. Témouine. Donc on ne sait pas trop.
Mais d'autant que c'est une... ça repose sur la croyance, au fait que la féminisation, avec tous les guillemets qu'il faut, ne concernerait que les noms. Mais dire cette femme est auteur chez un tel, le féminin, il est marqué ailleurs que sur le nom auteur. pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit les substantifs qui portent la marque du féminin ? Surtout en français, où justement, il y a des accords, des pronoms, etc. C'est un système parfaitement complexe. Ouais. Mais il y a une fétichisation comme ça du substantif qui, là encore, n'a aucun sens si on veut être sincère vis-à-vis du système de la langue. C'est choisir des formes comme ça qu'on va promouvoir. Et de fait, même les plus grands militants ne disent pas témouine ou autre, parce qu'il faut quand même un minimum de possibilités de communiquer.
Oui, c'est ça. Et vous citez aussi l'expression « beau parleur ». Vous dites, si on la met au féminin, ça donne quoi ? Une belle parleuse ? Ça n'a pas tellement de sens ?
C'est vrai qu'il y a des contraintes morphologiques qui deviennent gênantes, mais parce qu'effectivement, des fois, on aimerait pouvoir mettre des expressions dont le figement au masculin fait que le passé au féminin, c'est délicat. Mais en réalité, ça fait partie des contraintes de la langue qui ne concernent pas que le genre, mais qui concernent le singulier et le pluriel, qui concernent l'accumulation des adjectifs. On appelle ça la mise en forme de la langue. Et on a justement ça fait partie du système. Bon, voilà. C'est comme ça, et c'est pas du sexisme. Vouloir... En fait, lire une idéologie, c'est lire une intention dans la langue, une intention dans la grammaire. Et c'est là où on verse dans une espèce de complotisme historique où il y aurait quelqu'un qui aurait inventé la langue française dans son coin pour vexer certaines catégories de population. C'est là aussi une espèce de complotisme mystique qui n'a aucune réalité historique. Et si certains essaye à tout prix de recréer une histoire alternative. Ça a été démenti. Je m'y suis employé avec beaucoup d'autres linguistes. Hein. D'ailleurs, on a quand même publié beaucoup d'ouvrages collectifs, chacun sur ses parties historiques, morphologiques, sémantiques, etc. Et je n'entends plus depuis 2-3 ans d'arguments qui ont été démentis. Hein, je pense que le démenti a fini par pénétrer quand même le monde du militantisme qui s'est éloigné de certaines propositions trop radicales qui ne tenaient tout simplement pas scientifiquement.
Parce que la langue, c'est aussi l'ensemble des gens qui la parlent. Et donc, si ce n'est pas ni compris ni accepté, ça tombe, quoi. C'est un peu comme un mot nouveau, un néologisme qui disparaît. Alors, vous parlez d'ailleurs de ces gens-là qui étaient très, très virulents au niveau de l'écriture inclusive, de rééducation comportementale, mentale et linguistique. Et d'ailleurs, dans votre livre, il commence par une citation de George Orwell, évidemment. « Les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires. »
Oui, c'est le phénomène idéologique par excellence. Idéologique au sens où un cadre d'idées... une philosophie, une vision du monde, eh bien, va vouloir s'imposer. Et donc, plus on a cet esprit de système fondé sur des éléments qui peuvent paraître scientifiques, mais qui ne le sont pas forcément, eh bien, plus on va être tenté d'imposer cela. Et c'est vrai que c'est une démarche intellectuelle et intellectualiste que de vouloir imposer ses idées au peuple qui, n'est-ce pas, ne pense pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'inclusivisme est profondément bourgeois. Personne ne réclame de changer l'accord des adjectifs. On préfère une augmentation à la fin du mois, quand même, a priori. Ça change le sort des gens, hommes comme femmes. Et cette idéologisation permanente, elle est effectivement... elle verse dans une imposition qui s'exprime aussi au niveau législatif. Hein. Il y a des directives qui disent qu'il faut des doublons féminins, masculins, etc. On veut nous forcer à parler d'une certaine manière, forcer une langue de bois qui correspond à une vue de l'esprit, disons, mi-militante, mi-bureaucratique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité quasiment bureaucratique de cette idéologie de l'inclusivisme.
D'ailleurs, je ne sais pas si les organismes officiels, je crois que la mairie de Paris avait utilisé la langue inclusive, mais je ne sais pas si elle continue à le faire. Ou comme vous dites, ce sont des textes, et puis finalement, qui les lit et quelle est l'importance ?
Oui, et puis c'est totalement inapplicable. Voilà. Ça n'a pas été pensé non plus par rapport à l'oral. La grammaire de l'oral et la grammaire de l'écrit, ça n'est pas la même chose. Les situations de parole ne sont pas les mêmes. Et c'est voilà, en fait, c'est l'inclusivisme, c'est une pure dénonciation. Ça n'a aucune visée pratique réelle. Si on voulait s'attaquer aux inégalités sociales, a priori, c'est pas les questions d'accord des adjectifs qui seraient les plus qui seraient le plus efficaces. Et ça, justement, ce sont des militants qui ne veulent pas aborder les questions sociales et qui préfèrent ces questions qui les concernent parce que ça correspond à leur milieu social, ça correspond à leur milieu. En fait, l'inclusivisme est porté par une base sociale qui se désintéresse totalement de la réalité du terrain. Là encore, pour les hommes ou pour les femmes, c'est pas du tout leur problème, la réalité sociologique.
Oui, puis vous parlez de l'impossibilité orale, justement, de lire des textes en écriture inclusive. Il y avait eu un essai de réécrire les fables de La Fontaine en écriture inclusive et puis à l'oral. Enfin, c'était totalement ridicule et impossible, quoi. Voilà. Donc, ça tombe par soi-même.
Exactement. Voilà. Ce que j'avais prévu, c'est qu'il en reste évidemment quelque chose, quelques manies, quelques éléments un peu démagogiques, mais à part dans le milieu universitaire, et c'est là où on voit la base sociale qui porte cette idée-là, personne ne l'utilise. Il y a les militants et les universitaires. Donc, en fait, c'est un sociolecte. C'est les gens d'un certain milieu qui parlent comme ça, ou qui veulent écrire comme ça, ou qui veulent imposer cette idée-là. Et c'est extrêmement égocentrique, en fait, comme vision du monde.
Mais je ne sais même pas si entre eux, ils parlent, justement, de cette façon à voir.
On ne sait pas comment on parle. Voilà. C'est ce qui justifie mon métier de linguiste, c'est de comprendre comment on parle. C'est ce qu'on appelle la dimension épilinguistique. On fait des choses avec la langue dont on n'est absolument pas conscient. On est extrêmement savant dans sa maîtrise de la langue, mais dès qu'on vous demande comment ça fonctionne, là, vous ne le savez plus. Un peu comme on sait conduire une voiture, mais qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a sous le capot. Eh bien, pour la langue, c'est un petit peu pareil. Et c'est pour ça que les discours sur la langue, souvent, sont en fait des vues de l'esprit qui ne correspondent pas à la réalité.
Alors, vous dédicacez votre essai, donc « Le sexe et la langue », aux féministes, tirés aux vrais, alors vrai écrit V-R-I, entre parenthèses E, S, point d'exclamation. Une petite pointe d'humour.
Oui, parce que, effectivement, le mot féministe n'est ni masculin ni féminin, morphologiquement, on ne peut pas savoir. C'est justement l'accord de l'adjectif qui va permettre de savoir si on le met au féminin ou au masculin. Ça aussi, l'inclusivisme ne pense pas au cas où on ne peut pas décider, parce que ça n'est justement pas la problématique de la langue, de savoir si on n'est pas tout le temps en train de souligner le sexe des êtres, et précisément dans les noms de métiers et de fonctions. Ce qui compte, c'est le métier ou la fonction, et pas la personne qui l'exerce. Et en particulier, quand on est dans la généricité, on a besoin du genre non marqué pour pouvoir lui opposer justement un féminin. Et c'est autrement, on aboutit à des absurdités. Je ne peux pas mettre au féminin le mot traducteur dans un énoncé comme je me fiche de savoir si le traducteur est un homme ou une femme.
Parce c'est pas possible.
Ben voilà, et on voit bien d'ailleurs dans une phrase comme ça que le mot traducteur, il est sémantiquement neutre, même s'il est morphologiquement masculin, et tout le monde le comprend bien comme un neutre qui peut se diffracter en homme et femme. Voilà.
Alors vous avez publié un ouvrage aussi qui s'appelle « Les moutons de la pensée » avec une belle couverture, dans lequel vous dénoncez la contagion lexicale qui repose sur une faiblesse intellectuelle. C'est un petit peu la même idée, on va dire, le même combat. Et vous avez aussi publié un essai collectif qui s'appelle « Malaise dans la langue française » avec une douzaine d'écrivains et de penseurs. Et vous dénoncez les systèmes autoritaires qui ont toujours voulu contrôler la parole et l'écriture et que vous opposez à l'universalisme républicain.
C'est le prolongement de réflexion sur la question, en fait, la question idéologique. L'idéologie, ce sont des discours. Ce sont des mots, rien d'autre. Donc la mise en mots, elle est capitale pour comprendre ce que sont des idées. Et c'est d'ailleurs le sociologue Raymond Boudon qui disait que les idéologies sont un sous-produit naturel des sciences sociales. C'est-à-dire que voilà, quand on a des idées comme ça, on va les mettre en forme et ça dégénère en idéologie et la langue en est porteuse. On le voit dans tout le vocabulaire aujourd'hui qu'on appelle celui de la déconstruction, où voilà, il faut déconstruire, décoloniser, dégenrer, etc. C'est un vocabulaire qui est aujourd'hui s'est installé dans le monde universitaire, dans les sciences sociales, mais aussi, parce que c'est ça le cheminement, dans le monde politique et donc dans... dans l'idéologie politique, ça a infusé, mais grâce à des concepts qui n'en sont pas. Le mot patriarcat, le mot le décolonialisme, tout ça, ce sont des, c'est ce que j'appelle un arsenal lexical, c'est-à-dire qu'on va brandir ces mots-là sans trop savoir ce que ça recouvre, mais l'incantation de ces formules va avoir une efficacité politique, propagandiste, souvent, et c'est son grand défaut, elle passe pour être scientifique, hein, c'est ce que je disais avec Raymond Goudon à l'instant, il y a une prétention à la scientificité. Donc on va avoir des préfixes, des suffixes gréco-latins, ça fait... et cette prétention, elle a un effet, en fait, c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas la contredire parce qu'elle paraît tellement théorique, tellement abstraite, tellement savante que si on n'a pas les armes rhétoriques pour lutter contre, on est forcé d'accepter ce vocabulaire-là. Hein, vocabulaire queer, décolonial, trans, etc. Si on n'est pas à l'aise avec ce monde de préfixes et de fausses scientificités, hein, la blanchité, etc. Bon, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça sonne comme des sciences sociales, mais en réalité, il s'agit bel et bien d'idéologie. Et ce qui est intéressant intellectuellement, c'est d'arriver à faire la différence entre les deux. C'est ce que le dernier ouvrage que j'ai coordonné avec Pierre-André Taguieff, ça s'appelle « Les humanités attaquées ». Discours militant et sciences de la culture, c'est pour essayer de voir ce que le discours militant fait aux sciences de la culture, comment il modifie la façon dont on va formuler les choses et comment il procède d'une forme d'entrisme et où, à la fin, voilà, on ne peut plus lire Shakespeare sans plaquer dessus du patriarcat et de la décolonisation. Je dis ça parce que, justement, à Stratford-upon-Avon, il va y avoir la tentative de décoloniser la ville de Shakespeare, ce qui montre jusqu'où va ce discours qui paraît théorique, mais qui, dans la pratique, va revenir à investir une ville complètement pour effacer les traces historiques d'un pilier culturel comme Shakespeare.
Et si on émet la moindre réserve, on fait partie de la fachosphère.
C'est aussi une des caractéristiques de ce débat, c'est que on passe de la critique philosophique ou intellectuelle à l'insulte. La critique ad hominem, je connais bien depuis effectivement la publication du Sexe et la langue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun argument technique, mais par contre, on va mettre ça sur le dos de l'identité des gens. Et donc, c'est on voit bien d'ailleurs que c'est une idéologie qui, fondamentalement, est identitaire. Hein, quand on parle d'inclusivisme, il s'agit d'identité sexuelle, raciale, etc. En fait, c'est l'instauration du sexisme et du racisme comme mode de pensée soi-disant vertueux. Hein, ça serait le bon sexisme et le bon racisme, celui qui serait progressiste et correcteur. Et donc, ça signifie que le débat n'est plus de nature rationnelle, mais il est crispé sur des appartenances personnelles.
Et on voit bien d'ailleurs que ce discours-là provoque un contre-discours très efficace, très violent. Par exemple, on sait que l'administration Trump vient d'établir une liste de mots désormais interdits dans les écrits officiels qui reprennent un petit peu tous ces termes que vous avez, qui concernent la justice sociale, l'inclusion, les minorités ethniques, même les sciences sociales. Donc finalement, ces discours extrémistes provoquent à leur tour un discours extrémiste et qui, qui va aussi loin et qui est aussi ravageur. On va
dire. Là aussi, c'est totalement prévisible. À partir du moment où il y a un excès qui s'est imposé, la seule façon de l'éliminer, ça va être par un excès inverse. C'est ce qu'on observe. C'est pour ça que je pense qu'il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont tomber d'elles-mêmes, mais l'interventionnisme politique, il est en quelque sorte le retour de bâton d'un entrisme qui lui a été subreptice, et donc il se voit d'autant plus. Et c'est bien l'enjeu, c'est de ne verser dans aucun excès, mais disons les débats autour de ce qu'on a parfois appelé le wokisme, c'est-à-dire en fait le postmodernisme, l'intersectionnalité, ça fait un moment que ça n'est plus un débat intellectuel, philosophique, fondé sur des arguments réels, mais que c'est un débat idéologique. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai toujours essayé de recadrer les choses par rapport à la rationalité factuelle. Dans un de mes derniers articles, justement, j'essaie d'expliquer ce qu'est un fait linguistique, par exemple. Parce que beaucoup d'idéologues vont vouloir à tout prix parler du langage des plantes, qu'elles communiquent entre elles, du langage de la colonialité, etc. Et il y a une grande confusion entre langue et langage, entre discours et grammaire, et tout le monde raconte n'importe quoi. Et il faut recadrer les choses. Et comme vous l'avez dit avec cette citation d'Orwell, effectivement, ce sont les intellectuels qui sont le plus coupables de cette confusion qu'ils ont semée par... parfois un certain amour de la poétisation
qui finit parfois très mal, puisque vous les comparez aux Khmer Rouges, je crois. Et donc,
Oui, parce que quand on veut imposer des idées, imposer des formulations et des comportements aussi bien linguistiques qu'idéologiques, il s'agit d'un totalitarisme plus ou moins soft, mais dont effectivement il est difficile de s'extraire, déjà professionnellement. Ça crée des situations notamment d'insécurité linguistique. Quel langage adopter pour plaire à son administration, à son patron, à son environnement professionnel, cette situation d'insécurité linguistique, ça devient ça verse dans la surveillance idéologique. Et quelqu'un qui ne dit pas chers tous et toutes, tout de suite effectivement soupçonné d'appartenir à un camp politique. Et en fait, c'est le grand problème de l'inclusivisme, c'est qu'il a un effet d'exclusion, puisqu'il trie, il crée un clivage entre ceux qui utilisent la bonne langue et ceux qui ne le font pas. Et donc, ça permet de trier les alliés et les ennemis. Ouais. Et c'est en cela qu'on a quelque chose qui derrière une bonne intention, aboutit à une surveillance qui relève, oui, des commissaires politiques façon soviétique.
Voilà, ainsi se termine la première partie de notre entretien avec M. Jean Slamovitch, professeur des universités, linguiste, spécialisé entre autres dans l'analyse du discours. Un entretien à propos de son essai « Le sexe et la langue », paru en 2018 aux éditions Intervalle, un essai qui dénonce l'écriture inclusive et autres dérives militantes. Nous retrouverons M. Slamovitch un peu plus tard dans l'année pour savourer avec lui, au moins en parole, de bons crus de nos terroirs, puisqu'il a publié aux éditions du CERF en 2023 « Savoir parler du vin », dans lequel il nous explique toute la prose déroutante de l'œnologie. Nous parlerons également avec lui de son ouvrage intitulé « Jazz Talk », approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz, paru aux presses universitaires du Midi en 2021. Chaque chapitre étudie un aspect du jazz par son lexique, naissance du mot « jazz », le blues, la ségrégation et la négritude, le lien entre musique et pratique culinaire, plus de 200 mots passés au crible, en particulier les fausses étymologies et les stéréotypes sur le jazz depuis des décennies. Quelques rappels pour terminer. Ne manquez pas l'exposition « Âme animale » au musée d'Aubigny, à Auvers-sur-Oise, avec les multiples représentations de chats et de chouettes par les peintres Corneille, Fujita, ou bien encore Jean Cocteau, mais en particulier les œuvres stupéfiantes de l'artiste japonais Koji Ikuta, maître de la technique, de la manière noir, à voir au musée d'Aubigny à Auvers-sur-Oise jusqu'au 21 septembre. Nous recevrons d'ailleurs prochainement Madame Agnès Saulnier-Chemin, directrice du musée, qui nous présentera l'exposition plus en détail, ainsi que les nombreuses activités pour adultes et enfants en lien avec cette expo. Sans oublier, bien sûr, la première rétrospective consacrée au peintre norvégien Christian Krohg, en dehors de la Scandinavie, au musée d'Orsay jusqu'au 27 juillet. Christian Krohg, que nous a présenté lors de notre rendez-vous compte du 24 avril, notre chroniqueur Nicolas Martin. C'était Didier sur IDFM, à la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de Rendez-vous compte sur IDFM, évidemment.